Bonsoir à tous et à toutes. On va continuer notre série d'un proverbe. On est au proverbe 29 et on va voir quelques versets. On s'arrêtera plus particulièrement sur un et essayer de sortir une pensée plus particulière. Donc, je vais commencer tout simplement par le premier verset du proverbe 29 et on va s'y arrêter un court instant. Il est dit: un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Et j'ai toujours lu ce verset avec intérêt, parce que, vous savez, une particularité de l'homme, c'est de se chercher des excuses, de trouver des raccourcis, voilà, par exemple. Et cette phrase-là, enfin ce proverbe-là, c'est intéressant parce que ça laisse pas d'espace, en fait. Ça laisse pas d'espace à la rébellion, ça laisse pas d'espace à pas être d'accord avec Dieu, ça laisse pas d'espace à grand-chose en fait, hein. Il est dit: un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Et je sais qu'il y a un autre verset dans les Proverbes, je voulais pas trouver, mais qui dit que parce que là, en gros, la correction n'arrive pas de suite, ou le malheur n'arrive pas de suite. En conséquence d'une mauvaise action, ben le méchant, il pense qu'il va rien lui arriver, quoi. Et ce verset-là est intéressant parce que du coup, il donne vraiment un équilibre avec cette mauvaise idée que l'on peut avoir, ou mauvaise perception de la grâce de Dieu, qui est de se dire: bon, jusqu'à présent, il ne m'a rien tombé sur la tête. Je n'ai pas bien fait, mais il ne m'a rien tombé sur la tête. Donc, je continue encore un peu, hein, c'est encore jouable. Et là, il est dit, en fait, non, mais si tu mérites d'être repris et si tu redis le coup, c'est-à-dire que tu opposes ta volonté au fait que normalement tu dois être repris pour peu importe la chose, hein, il n'y a rien qui est dit de manière précise, il est dit, cette personne-là sera brisée subitement et sans remède. Donc c'est quand même c'est assez sec, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que... il nous est déconseillé de nous amuser avec les bontés de Dieu, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que Dieu est gracieux, c'est vrai qu'il va pas nous tomber sur le râble à chaque fois qu'on va faire un mouvement de travers. Pareil pour les non-croyants, pareil pour tout le monde, quoi, si vous voulez. Mais en même temps, c'est pas moi qui maîtrise le temps, c'est pas moi qui maîtrise les circonstances. Et donc, si je veux jouer, je ne vais pas gagner, en fait. C'est ce que dit le verset ici. Et nous, en tant que chrétiens, du coup, puisque ben, quand même le verset s'adresse peut-être en généralité pour l'homme méchant et plutôt celui qui est non-croyant, mais nous, forcément, il y a des moments où nous ne sommes pas dans la position dans laquelle nous devrions être. Ce verset, on doit aussi le prendre pour nous et se dire, est-ce que je suis en train de jouer avec Dieu? Est-ce que je suis en train de jouer avec la doctrine? Est-ce que je suis en train de jouer avec la grâce de Dieu? Ou alors je veux être sérieux avec Dieu et donc voilà. Parce qu'en fait, on sait qu'en même temps, ce n'est pas la peur qui doit nous motiver à avancer. Ce n'est pas la peur. Mais en même temps, ben voilà, Dieu dit qu'il y a quand même des conséquences à nos actes, qu'il y a des conséquences à nos choix. Et nous, on ne maîtrise pas grand-chose de cela. Donc quand Dieu nous fait grâce, ben tant mieux, merci, amen, et on avance. Mais quand ça se passe autrement, ça se passe autrement et c'est annoncé à l'avance. Et ça, c'est important. Donc ça, c'était une première chose sur un verset. Ça sera pas, rassurez-vous de suite, ça n'est pas le sujet central de ce soir. Mais quand même, je trouvais que ce verset était intéressant et que ça valait la peine d'en dire deux, trois mots. Un autre verset qui n'est pas central, mais c'est quand même assez intéressant. Alors, celui-là de verset, je dirais qu'il... bon, on ne va pas faire de politique, donc, mais enfin, on va dire, il pourrait être d'actualité par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Il est dit, bien que là, j'extrapole largement, au verset 9, il est dit, si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà, maintenant, on va laisser l'actualité de côté. Et juste commenter pour nous. Vous savez, des fois, on connaît ce que dit la Bible, mais on aimerait qu'elle dise d'autres choses. On aimerait qu'elles disent des choses bonnes, qui nous plaisent. On aimerait que la Bible nous dise que, et Dieu par extension, bien sûr, on aimerait qu'ils nous disent mais tout va s'arranger, mais tout va aller, ça va être mieux, ne t'inquiète pas. Et en fait, c'est souvent pas ce qui nous est dit dans les Écritures. Ce qui nous est dit, c'est qu'à la fin des fins, oui, nous sommes du bon côté. Oui, ça va s'arranger dans le sens que, ben, une fois que le rideau sera tiré sur ce monde, pour ma part, je serai ailleurs et ça sera mieux et ça ne s'arrêtera pas et je serai avec Dieu. Mais pour le moyen terme, si vous voulez, dans cette vie, il n'y a pas de grande promesse qui nous est faite que les choses s'arrangent. Alors des fois, elles s'arrangent, des fois, elles ne s'arrangent pas. Et notre espérance, qu'elle ne soit pas dans le fait que ça ira mieux demain. Parce que je n'en sais rien si ça ira mieux demain. Des fois, ça va mieux demain, et des fois, ça ne va pas mieux demain, et des fois, ça dure, et puis des fois, non, c'est super, ça ne dure pas. C'est vrai. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, pourquoi je dis ça? Parce que là, quand il est dit, donc un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Donc ça veut dire, la personne, c'est un homme sage. Donc voilà, on se met dans la meilleure des positions. Je me mets du côté de l'homme sage. Eh bien, il y a des insensés autour de moi. Et ces insensés, ben, que j'essaye de rigoler ou que je me mette en colère, il nous est dit que ça va rien changer. Ils vont pas devenir autre chose que ça, en fait. Alors, OK, on sait très bien que les gens peuvent se convertir et tout, mais vous voyez, le verset, il nous dit, ben, il y a des situations. Vous pourrez faire ce que vous voulez, vous pourrez faire des pieds et des mains, vous ne pourrez rien changer. Donc, ça servira à rien de se culpabiliser, de se dire, mais qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire de mieux? Est-ce que je n'ai pas assez prié peut-être? Est-ce que je n'ai pas assez parlé? Et je pense qu'il y a des situations comme ça dans la vie que l'on ne maîtrise pas du tout. Et Dieu il fait ce qu'il a à faire. Je ne veux même pas dire que voilà, il fait ce qu'il a à faire. Et on n'est pas toujours au courant de ce qu'il veut faire. Mais nous, des fois, on n'a pas à s'inquiéter en fait de ce qui se passe parce que c'est quelque part, c'est pas de notre ressort. Donc nous, on a à se concentrer sur ce que nous connaissons en fait de Dieu. Nous, on a à se concentrer sur quel est mon chemin, quelle est ma voie, où est-ce que Dieu m'attend, plutôt que de vouloir ou d'essayer, peut-être même inconsciemment des fois, réparer le monde, réparer la vie, réparer les autres, se réparer soi-même. Parce qu'en fait, nous n'avons pas de promesse à cet égard-là. Nous n'avons pas de promesse de réparation. Nous n'avons pas de promesse que ici, ça va être mieux. Voilà, je veux dire. Nous n'avons pas ça. Tout comme, je veux dire, aujourd'hui, nous marchons avec Dieu. Aujourd'hui, j'ai des décisions à prendre. Aujourd'hui, j'ai voilà, à décider de vivre certaines choses et pas d'autres. Mais dans 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas où je serai. Je ne sais pas comment je serai. Je ne sais pas qu'est-ce qui va changer dans ma vie. Et ça, je ne le maîtrise pas. Et donc, si je ne le maîtrise pas, quelque part, je n'ai même pas à m'y intéresser. J'ai à m'intéresser à ce que Dieu me donne de m'occuper. Et ce que Dieu me donne de m'occuper, ce sont les vérités qui sont dans sa parole, ce sont les voies de Dieu, ce sont les choses que lui me dit, tout simplement. On va voir un autre verset. Un autre verset, c'est au verset 24, 24 et 25, il est dit, celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Et il y a une première chose qui est intéressante dans ce verset-là. C'est quelque chose qui est fréquent dans les proverbes, dans le livre des proverbes ici. C'est qu'il nous est quand même donné des situations qui peuvent nous paraître un peu excessives. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous lisez celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme, ben, la première chose que vous avez dû vous dire en m'entendant lire le verset, c'est mais moi, je ne partage pas avec un voleur. Et ce n'est pas prévu que je vais partager avec un voleur. Donc, je veux dire, en gros, je ne suis pas concerné par le verset. Eh bien, quelque part, on est quand même concerné par le verset. Pourquoi? Parce que d'abord, on ne sait pas, enfin, pas, on ne sait pas, mais je veux dire, tout péché est à l'intérieur de notre cœur et ça peut arriver, en fait. Donc ça, c'est une chose, mais il y a des choses aussi à tirer comme instruction pour nous, peut-être dans d'autres circonstances, parce que c'est vrai, et j'espère bien qu'on ne va pas se retrouver dans la circonstance du verset 24, mais il y a dit, donc celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Et un point qui m'intéresse, c'est ça, c'est que dans des certain nombre de recommandations qui sont faites, notamment en Proverbe, la chose importante à regarder, c'est est-ce que je suis l'ami de mon âme ou est-ce que je suis ennemi de mon âme? Des fois, je me dis juste, est-ce que je suis du côté de Dieu ou pas? Mais il y a aussi, qu'en est-il par rapport à mon âme? Est-ce que je réalise qu'en ne me confiant pas à Dieu, en n'écoutant pas Dieu, en arrangeant les choses à ma sauce, est-ce que je réalise que je suis en train de me faire du mal à moi? Est-ce que je réalise que je suis en train de donner des coups de marteau sur mes doigts, en fait? Je loupe le clou et je tape sur mes doigts, en fait. Je me fais mal. Ce n'est pas juste une question de c'est bien, c'est mal, faut faire comme ça, faut pas faire comme ça, ou bon Dieu va être content, il va pas être content. Non, mais en fait, je me fais vraiment mal. Et ici, juste une chose, c'est que au verset 25, donc le verset suivant, qui est une conclusion entre guillemets du verset 24 que je viens de lire, il est dit, la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Ce qui veut dire qu'en fait, dans le verset 24, pourquoi est-ce qu'on va partager avec un voleur? Parce qu'on a peur des hommes. Parce qu'on a peur des hommes. Et ça, par contre, même si je ne vais pas partager avec un voleur, et vous non plus, est-ce que je n'ai pas la crainte des hommes, des fois? Ou souvent, enfin, peu importe, ça dépend des gens, ça dépend des tempéraments, des fois. Est-ce que je n'ai pas peur des hommes? Est-ce que je n'ai pas peur de ce qui peut se passer dans les relations, etc., etc.? Et vous savez, quand on réalise qu'on a la crainte des hommes, comme on le voit par exemple avec l'apôtre Pierre, hein, quand, comment il s'appelle, Paul dans Galate, explique qu'il l'a repris dans une auberge où il avait une attitude qui n'était pas correcte et qui était issue effectivement de la crainte des hommes, la crainte des judaïsants, eh bien, quand on réalise ça, on a un petit problème, c'est qu'on se dit, ouais, mais quand j'ai peur, c'est quoi la solution à la peur? Et ouais, j'ai peur, d'accord, c'est pas bien, ah ouais, et on fait quoi maintenant? Et on fait quoi? Et ça, c'est une bonne question, parce qu'on fait quoi? Eh bien, on fait quoi? On doit retourner vers l'essentiel, et vers l'essentiel, c'est la deuxième partie du verset 25. Donc, la crainte des hommes tend un piège. Donc, à savoir que quand je fais mal, je me fais du mal à mon âme. Mais en fait, je me piège moi-même. Et la deuxième partie, donc, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Donc en fait, la seule chose qui va m'aider de m'éloigner de la peur, c'est de me confier en l'Éternel. Et vous savez, je vous donne cette image, c'est une image très, très simpliste, mais ce n'est pas grave, ça veut dire ce que ça veut dire. Et après, je vais vous dire, il y a un mot en anglais qui va bien avec ça. Quand vous n'arrivez pas à marcher sans une aide extérieure, vous avez besoin par exemple d'une canne, d'une béquille, je ne sais pas, peu importe, d'un déambulateur, n'importe. Votre seul moyen d'avancer, de marcher, etc., c'est quoi? C'est de vous appuyer de tout votre poids sur l'élément extérieur qui est mis à votre disposition. C'est le seul moyen. Mais vous pouvez vous dire, mais je vais m'appuyer sur la canne, mais la canne, elle va riper. Le machin, là, pas en plastique, en caoutchouc qui est au bout, ouais, il va se déchirer au bout d'un moment. Et puis en fait, je vais glisser sur le carrelage ou je sais pas. Ouais, non, mais si je passe ma vie à essayer d'analyser les choses de cette manière-là, je ne marcherai jamais. Parce qu'en fait, je ne peux pas marcher, je vais refuser de prendre l'outil extérieur qui m'est donné pour des raisons qui ne sont pas forcément fausses, mais qui ne sont pas là aujourd'hui. Ou en tout cas, je ne sais pas si ça va arriver. Donc moi, j'ai besoin, je ne peux pas marcher. Le seul moyen de marcher, c'est de s'appuyer sur la canne. Il faut que je prenne la canne. Sinon, je vais rester assis ou couché. Et ça ne va pas être bon pour moi, en fait. Et il y a un mot en anglais qui va dans cette idée de s'appuyer. C'est un mot qui veut dire s'abandonner, c'est surrender en anglais. Et ça, donc, ça veut dire s'abandonner, tout simplement. Se livrer, se perdre en lui, en fait. C'est un peu ça. Et je trouve qu'on a besoin de garder cette notion-là. Et un dernier verset, rapidement, avant d'aller dans le cœur de la chose, c'est au verset 11, il est dit, l'insensé, donc l'insensé, on sait que c'est tout particulièrement le mauvais personnage qui nous est présenté dans les proverbes, hein, pour nous montrer en fait l'inverse de ce qu'il faut. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Et ça, c'est intéressant parce que nous sommes à une époque qui, contrairement peut-être au siècle précédent, au siècle au pluriel, hein, précédent, il y a une grande emphase qui est mise sur les émotions, sur les sensations, sur ouais, voilà, ce que je ressens, je sens le truc, je le sens pas, etc. Mais ça, c'est quoi? C'est en rapport avec les passions de manière générale. Et ici, il nous est dit que l'insensé met en dehors toutes les passions. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il va exposer tous ses sentiments, ses émotions, que ce soit de la colère, que ce soit des choses plus positives, peu importe. Mais lui, il va exposer, il va déverser ça vers l'extérieur. Il est dit que celui qui est sage, il va contenir les passions. Il va contenir, il va maîtriser quelque part, effectivement, les émotions, les passions, tout ce qui peut être un vent qui nous amène au large. Vous voyez? Et du coup, ça, c'est encore une chose qui est importante pour nous. Surtout qu'on va arriver sur le verset clé sur lequel je voulais m'attarder et sur le passage qu'on verra à côté. Où là, c'est intéressant parce qu'en fait, la solution pour nous dans toutes ces choses, dans ces mauvaises dispositions, mauvaises attitudes, mauvaises, etc., qui nous sont proposées ici dans ces versets-là, par exemple, et d'autres choses qu'on peut trouver de toute façon ailleurs dans les Écritures et que l'on s'aperçoit dans notre vie, la solution, et c'est, je veux pas vous, c'est pas un scoop hein, ce soir, mais c'est toujours la même. Mais on va voir ça. Donc c'est le verset 18 qui est connu. Il est dit. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Alors, je sais qu'il y a des versions qui disent, au lieu de mettre révélation, il parle de vision, mais apparemment, le terme pour révélation est peut-être plus juste, et en tout cas, est beaucoup plus pratique pour nos vies, parce qu'une vision, c'est pas forcément. Enfin. On peut avoir tendance à mettre un peu n'importe quoi derrière. C'est ça ce que je veux dire. Alors qu'ici, il est dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Et c'est quand même assez intéressant parce qu'on pourrait se dire, tiens, mais la première partie, s'il n'y a pas de révélation, bon, le peuple est sans frein. Et la deuxième partie, il est dit d'observer la loi. Et pourtant, moi, j'aurais tendance à me dire, ben tiens. La révélation, c'est comme si c'était l'étape après la loi. J'ai la loi, on va dire, j'ai le logos de la parole de Dieu, et la révélation, ça serait le rhéma. Donc c'est l'étape d'après. Et du coup, je me dis, ben, s'il n'y a pas de rhéma, ben, le logos, il sert à rien, quoi, en fait. Et ce n'est pas ce qu'il nous est dit ici. Il nous est dit quand il n'y a pas de révélation, donc le peuple est sans frein, donc ça, c'est sûr. C'est sûr que si Dieu ne parle pas ou si nous n'écoutons pas Dieu, quelles que soient les raisons, nous sommes sans frein, nous sommes sans limite, nous sommes comme je l'ai lu au verset 11, comme l'insensé qui met en dehors toute sa passion, en fait. Heureux s'il observe la loi. Et je pense quand même que la loi, on doit le prendre. Alors, bien sûr, là, c'est écrit dans l'Ancien Testament, ça s'adresse à des gens qui sont sous la loi, mais je pense qu'on peut l'appliquer pour nous de manière plus large, parce qu'on sait que la loi, c'est la Bible, la loi, c'est la parole de Dieu. La loi, c'est quoi? C'est ce que Dieu a à nous dire, ses commandements, ses voies, sa manière de faire. C'est pas juste la loi de Moïse, scripto sensus, ou les 10 commandements, et puis voilà, non, là, on parle que de ça. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus large. Et donc, voilà, ça, c'est la chose qui est intéressante, et on va lire juste 2 versets dans un passage qui n'est pas dans les Proverbes. Et je vous lis ces 2 versets. C'est en 1 Samuel chapitre 3. Hein. 1 Samuel chapitre 3, c'est quand Samuel est appelé par Dieu dans le tabernacle, on va dire, dans la tente, Il ne connaissait pas Dieu et Dieu lui s'adresse à lui pendant la nuit. Et le prophète, pas le prophète, le sacrificateur Élie, qui était un peu beaucoup à côté de ses pompes, lui reconnaît en tout cas que c'est Dieu qui doit parler à l'enfant et le guide dans la mesure de ce qu'il connaît en fait. Du coup, c'est pour ça que c'est assez intéressant. Le sacrificateur qui est, on va dire, hors jeu par rapport à Dieu, parce qu'il connaît quand même la parole de Dieu, eh ben, il comprend ce qui se passe. Et l'enfant qui ne connaît rien, ben, il ne sait pas. Il croit juste que c'est le sacrificateur qui lui parle. Vous voyez, vous vous rappelez de cette histoire? Parce que là, on ne va pas lire le chapitre en entier, hein, je vous le dis de suite. Donc, c'est intéressant. Donc, celui qui connaît la loi discerne quand même ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il s'y soumet. Mais du coup, il a quand même les éléments pour discerner un tant soit peu ce que fait Dieu. Celui qui n'a même pas la parole de Dieu, il discerne rien. Il est juste dans ses passions, dans ses passions, dans sa chair, dans ce qu'il peut. Hein. Donc 1 Samuel 3, pourquoi je prends ça? Parce que, bon, d'abord, là, les deux versets sur lesquels je m'arrête auront un intérêt. Mais une autre chose, c'est que, vous savez, comment dire, Samuel arrive à un moment qui est intéressant, c'est on va dire à la fin de la période des juges. C'est même pas qu'il arrive à la fin de la période des juges, c'est qu'on va dire, lui arrive et il va clore la période des juges et démarrer, être l'instigateur, on va dire, mais en fait c'est pas lui, c'est Dieu qui l'utilise tout simplement, hein, qui lui demande de faire comme ça, de la royauté qui arrive derrière. Mais du coup, il est dans une période, c'est la période des juges, et c'est une période où, bon, on le sait, on a lu le livre des juges, on connaît, c'est le grand n'importe quoi. Et pourquoi c'est le grand n'importe quoi? Une, parce qu'il n'y a pas de roi. Et deux, ben, parce que ce qu'on va lire en 1 Samuel 3, au premier verset. Il est dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, vous voyez, en Proverbe 29, 18, il est dit, s'il n'y a pas de révélation ou de vision, le peuple est sans frein. Ici, il est dit, ben justement, vous connaissez l'état du peuple au moment de Samuel et précédemment, et la raison, elle est là. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions ou les prophéties n'étaient pas fréquentes. Donc, en fait, les gens, ils avaient la loi, le texte, et il n'y avait pas de parole, on va dire, vivante, fraîche, précise pour maintenant de la part de Dieu. Il n'y avait pas. Et du coup, le peuple, il était dans du n'importe quoi. Il était dans du n'importe quoi. Et au verset 19, il nous est dit une chose. Donc c'est un petit peu plus loin. 3, 19, voilà. Donc, il y a l'histoire que je vous ai très, très sommairement résumée. Mais au verset 19, on arrive à la fin de l'histoire. Donc, très bien, comment il s'appelle? Samuel.